Erckmann Chatrian, Histoire d'un paysan, 1794 à 1795. Lu par Florent. Quatrième partie, Le citoyen Bonaparte. Chapitre 1. Je vous ai raconté notre campagne de Vendée, de ce que les Vendéens eux-mêmes appellent la Grande Guerre. Nous avions exterminé la mauvaise race sur les deux rives de la Loire, mais les trois quarts d'entre eux avaient laissé leurs os en route. Tout ce qu'on a vu depuis n'est rien auprès d'un acharnement pareil. Le restant des Vendéens, après l'affaire de Savenay, s'était sauvé dans les marais le long de la côte, où le dernier de leurs chefs, le fameux Charette, tenait encore. Cette espèce de finot ne voulait pas livrer de bataille rangée. Il pillait, autour de ses marais, les fermes et les villages, emmenant bœufs, vaches, foin, paille, tout ce qu'il pouvait happer. Les malheureux paysans, réduits à n'avoir ni feu ni lieu, finissaient toujours par le rejoindre, et la guerre civile continuait. La 18e demi-brigade et les autres troupes cantonnées aux environs de Nantes, d'Ancenis et d'Angers, fournissaient de forts détachements pour tâcher d'entourer et de prendre ce chef de bande. Mais à l'approche de nos colonnes, il se retirait précipitamment, et d'aller le suivre à travers les saules, les joncs, les zones et autres plantations touffues, où les Vendéens nous attendaient en embuscade, on pense bien que nous n'étions pas si bêtes. Ils nous auraient tous détruits en détail. Voilà notre existence au mois de janvier et février 1794. Et maintenant, je vais marcher plus vite. Je me fais vieux. J'ai encore plusieurs années à vous raconter, jusqu'à la fin de notre République, et je ne veux rien oublier, surtout ce que j'ai vu moi-même. C'est dans une de nos expéditions contre Charette que je retombais malade. Il pleuvait tous les jours. Nous couchions dans l'eau. Les Vendéens coupaient souvent nos convois. Nous manquions de tout. Mes crachements de sang par la souffrance, les privations, les marches forcées recommencèrent plus fort. Il fallut m'envoyer à Nantes avec un convoi de blessés. À Nantes, le médecin en chef ne me donna pas seulement 15 jours à vivre. Les blessés du combat de Colombin encombraient les salles, les escaliers, les corridors. Je demandais à retourner au pays. « Tu veux revoir ton pays, mon garçon ?» me dit le major en riant. « C'est bon, ton congé va bientôt venir. » Et 8 ou 10 jours après, il m'apportait déjà mon congé définitif, comme hors de service. Un autre avait de la place dans mon lit. Il s'est passé depuis des années et des années. Le major qui m'avait condamné n'a plus mal aux dents, j'en suis sûr, et moi je suis toujours là. Que cela serve de leçon aux malades et aux vieillards que les médecins condamnent. Ils vivront peut-être plus longtemps qu'eux. Je ne suis pas le seul qui puisse leur servir d'exemple. Enfin, ayant mon congé dans ma poche et 100 livres en assignat que Marguerite m'avait envoyé bien vite, en apprenant par mes lettres que j'étais malade à l'hôpital de Nantes, je ramassai mon courage et je pris le chemin du pays. C'était en mars, au temps de la plus grande terreur et de la plus effrayante famine. Il ne faut pas croire que le temps était mauvais, au contraire, l'année se présentait bien, tout verdissait et fleurissait. Les poiriers, les pruniers, les abricotiers étaient déjà blancs et roses avant la fin d'avril. On aurait béni l'Éternel, s'il avait été possible de rentrer la moitié des récoltes qu'on voyait en herbe. Mais elles étaient encore sous terre. Il fallait attendre des semaines et des mois pour les avoir. Je pourrais vous peindre, tout le long de la Loire, les villages abandonnés, les églises fermées, les files de prisonniers qu'on emmenait, l'épouvante des gens qui n'osaient vous regarder. Les commissaires civils avec leurs écharpes et leurs hommes, le dénonciateur derrière, en train de faire la visite. Les gendarmes et même les citoyens qui vous demandaient votre feuille de route à chaque pas. Les hébertistes qui voulaient abolir l'être suprême venaient d'être guillotinés. On cherchait de tous les côtés leurs complices et naturellement plus d'un frémissait, car on ne voulait plus d'ivrognes, plus de débauchés, plus d'êtres éhontés qui renient la justice et l'humanité. On ne parlait plus que de Robespierre et du règne de la vertu. Moi, je me traînais d'étape en étape, tout pâle et maigre, comme un malheureux qui n'a plus que le souffle. Quelquefois, les paysans que je rencontrais, tournant la tête, avaient l'air de se dire en eux-mêmes « Celui-là n'a pas besoin de s'inquiéter, elle ne fera pas de vieux os. » Dans les environs d'Orléans, l'idée me vint d'aller voir Chauvel à Paris. C'était une idée de malade qui se raccroche à toutes les branches. Je me figurais que les médecins de Paris en savaient plus que les barbiers, les vétérinaires et les arracheurs de dents qu'on avait envoyés dans nos bataillons en 92. Et puis Paris, c'était tout. C'est de là que partaient les décrets, les ordres aux armées, les gazettes et les grandes nouvelles. Je voulais voir Paris avant de mourir. Et vers le commencement d'avril, j'arrivais dans ses environs. Quant à vous peindre comme Marguerite et Chauvel cette grande ville, ce mouvement au loin, ces faubourgs, ces barrières, ces courriers qui vont et viennent, ces grandes rues encombrées de monde, ces files de misérables en guenilles, enfin, ce bourdonnement de cris, de voitures qui montent et descendent comme un orage, vous devez bien comprendre que je n'en suis pas capable. D'autant plus que j'ai passé là, dans un temps extraordinaire, seul, malade, sans savoir, au milieu de cette confusion, ce qu'il fallait regarder, ni même de quel côté je venais d'entrer et de quel côté j'allais sortir. Tout ce qui me revient, c'est que je descendais une grande rue qui n'en finissait pas, et que cela dura plus d'une heure. Ceux auxquels je demandais la rue du Boulois me répondaient tous « Toujours devant vous !» Je croyais perdre la tête. Il pouvait être 5 heures, et la nuit venait, lorsqu'à la fin des fins, au bout de cette rue, en face d'un vieux pont couvert de grosses guérites en pierre de taille, je vis la Seine, de vieilles maisons à perte de vue penchées au bord, une grande église noire sans clocher par-dessus et d'autres bâtisses innombrables. Le soleil se couchait justement. Tous ces vieux toits étaient rouges. Comme je regardais cela, me demandant de quel côté tourner, quelque chose d'épouvantable passa devant moi, quelque chose d'horrible et qui fait encore bouillonner mon vieux sang après tant d'années. J'avais déjà passé le pont, et voilà qu'au milieu d'une foule de canailles qui criaient, dansaient, roulaient les uns sur les autres, en levant leurs sales casquettes et leurs bâtons, voilà qu'entre deux forts piquets de gendarmes à cheval s'avancent lentement 3 voitures pleines de condamnés. Dans la première de ces voitures, à longues échelles peintes en rouge, 2 hommes se tenaient debout, en bras de chemise, la poitrine et le cou nu, les mains liées sur le dos. Tous les autres condamnés étaient assis sur des bancs à l'intérieur et regardaient devant eux, d'un air d'abattement et les joues longues. Mais de ces deux-là, l'un fort, large des épaules, la tête grosse, les yeux enfoncés et comme remplis de sang, riait en serrant ses lèvres, on aurait dit un lion entouré de misérables chiens qui gueulent et s'excitent pour tomber dessus. Il les regardait d'un air de mépris, ses grosses joues pendantes tremblaient de dégoût. L'autre, plus grand, sec et pâle, voulait parler. Il bégayait en écumant. L'indignation le possédait. Ces choses sont peintes devant moi. Je les verrai jusqu'à ma dernière heure. Et pendant que les chevaux, les sabres, les échelles rouges et la race abominable s'éloignaient piaffant, grinçant et criant « À mort les corrompus! À mort les traîtres! Ça ira, dansons la Carmagnole! À toi, Camille! À toi, Danton! Vive le règne de la vertu! Vive Robespierre !» Pendant que cette espèce de mauvais rêve s'en allait, à travers la foule innombrable, penchée aux fenêtres, aux balcons, rangée le long de la rivière, voilà que la 2e voiture arrive, aussi pleine que la première, et plus loin, la 3e. Je me souvins en même temps que Chauvel était l'ami de Danton, et je frémis en moi-même. S'il avait été là, malgré tout, j'aurais tiré mon sabre pour tomber sur la canaille et me faire tuer. Mais je ne le vis pas. Je reconnus seulement notre général Westermann dans le nombre. Le vainqueur de Châtillon, Dumont, de Savenay. Il s'y trouvait, lui, les mains attachées sur le dos, tout sombre et la tête penchée. La même abomination de cris, de chants et d'éclats de rire suivait ces 2 dernières voitures. Ce n'est pas l'idée de la mort qui peut faire trembler de pareils hommes, mais la colère de voir l'ingratitude du peuple qui les laisse insulter et traîner à la guillotine par des mouchards. Ces mouchards ont sali notre révolution. Ils se disaient sans culotte et vivaient à leur aise dans la police, pendant que le peuple, ouvriers et paysans, souffrait toutes les misères. Ils restaient à Paris pour souffleter les victimes, pendant que nous autres, par centaines de mille, nous défendions la patrie et versions notre sang à la frontière. Enfin, je partis de là, dans l'épouvante. Je voyais déjà notre République perdue. Cette manière de se guillotiner les uns les autres ne pouvait pas durer longtemps. Ce n'est pas en coupant le cou aux gens qu'on prouve au peuple qu'ils avaient tort. À quelques 100 pas plus loin, je finis par trouver la maison où demeurait Chauvel. Il faisait nuit. J'entrai dans la petite allée sombre. En bas, à gauche, demeurait un tailleur, au fond d'une niche que sa table remplissait tout entière. C'était un vieux, le nez rouge jusqu'aux oreilles. Je lui demandai le représentant du peuple Chauvel. Aussitôt, cet homme, avec de grosses besicles, me regarda des pieds à la tête. Ensuite, il décroisa ses jambes cagneuses et me dit « Attends, citoyen, je vais le chercher. » Il sortit, et 5 ou 6 minutes après, il revenait, amenant un gros homme court, le chapeau retroussé, une grosse cocarde devant et l'écharpe tricolore autour du ventre. 200 ou 300 culottes le suivaient. « Tenez, le voilà !» dit le tailleur. « C'est lui qui demande Chauvel. » L'autre, un commissaire civil, sans doute, commença par me demander qui j'étais, d'où je venais. Je lui répondis que Chauvel le saurait bien. « Au nom de la loi !» me cria cet homme. « Je te demande tes papiers. Vas-tu te dépêcher, oui ou non ?» Les 100 culottes alors entrèrent dans la niche. Je ne pouvais plus me remuer. De tous les côtés, dans la petite allée, j'entendais des gens marcher, descendre des escaliers, et je voyais cette espèce me regarder dans l'ombre avec des yeux de rat. C'est pourquoi, tout pâle de colère, je jetai ma feuille de route et mon congé sur la table. Le commissaire les prit et les mit dans sa poche en me disant « Arrive ! Et vous autres, attention, qu'on ouvre l'œil !» Le tailleur paraissait content. Il croyait déjà tenir la prime de 50 livres. J'aurais voulu l'étrangler. Il fallut sortir. 50 pas plus loin, dans une grande salle carrée où des citoyens montaient la garde, on examina mes papiers. Quant à vous dire toutes les questions que me fit le commissaire sur mon engagement, sur ma route, sur mon changement de direction et la manière dont j'avais connu Chauvel, c'est impossible depuis le temps. Cela dura plus d'une demi-heure. À la fin, il reconnut pourtant que mes papiers étaient en règle et me dit, en posant dessus son cachet, que Chauvel était en mission, à l'armée des Alpes. Alors la colère me prit, je lui criai. « Ne pouviez-vous pas me dire cela tout de suite, tade ?» Mais je retins ma langue, et le commissaire, me regardant d'un air de mépris, s'écria. « Tout de suite ? Il fallait te dire cela tout de suite ! Ah ça ! Dis donc, imbécile, est-ce que tu crois que la République raconte ses secrets au premier venu ? Est-ce que tu ne pouvais pas être un espion de Cobourg ou de Pitt ? Est-ce que tu portes ton certificat de civisme peint sur ta figure ?» Cet homme paraissait furieux. S'il avait fait un signe aux sectionnaires attentifs autour de nous avec leurs piques, j'étais arrêté. J'eus assez de bon sens pour garder le silence, et lui, vexé de n'avoir pas fait une bonne prise, me montra la porte en disant « Tu es libre, mais tâche de ne pas être toujours aussi bête, ça te jouerait un mauvais tour. » Je sortis bien vite, et je remontai la rue. Tous ces 100 culottes me regardaient encore de travers. Durant les 2 jours que je restais à Paris, le même spectacle me suivit. Partout, les gens ne voyaient que des suspects. Le premier venu pouvait vous arrêter. On passait sans oser se regarder les uns les autres. Et ce n'était pas sans cause. Les trahisons avaient donné le branle. La disette poussait les misérables à chercher de quoi vivre. Ils dénonçaient les gens pour avoir la prime. Un mal avait amené l'autre. Nous étions en pleine terreur, et cette terreur épouvantable venait des Lafayette, des Dumouriez, de tous ceux qui, dans le temps, avaient livré nos places, essayé d'entraîner leurs armées contre la nation et porté les paysans à détruire la République. Les grands maux font les grands remèdes. Il ne faut pas s'en étonner. Une fois hors des griffes du commissaire, en remontant la vieille rue sombre, je finis par trouver une de ces auberges où les mendiants et les pauvres diables de mon espèce logeaient à quelques sous la nuit. C'est ce qu'il me fallait, car avec mon vieux sac, mon vieux chapeau, mes pauvres habits de Vendée, tout usés, déchirés et rapiécés, on n'aurait pas voulu me recevoir ailleurs. J'entrai donc dans ce cabaret borgne, et la vieille, qui se trouvait derrière le comptoir au milieu d'un tas de sans-culottes qui buvaient, fumait et jouait aux cartes, cette vieille comprit tout de suite ce que je voulais. Elle me conduisit en haut de sa baraque, moyennant une corde qui servait de rampe. Il fallut payer d'avance, et puis m'étendre sur une paillasse d'où les puces, les punaises et autres vermines me chassèrent bientôt. Je m'étendis alors sur le plancher, la tête sur mon sac, comme en plein champ. Et malgré les mauvaises odeurs, les cris d'ivrogne, le passage des rondes en bas dans la rue, malgré le manque d'air dans ce recoin, sous les tuiles, et les jugements abominables de ceux qui trébuchaient dans l'escalier, je dormis jusqu'au matin. L'idée que Danton, Camille Desmoulins, Westermann et les meilleurs patriotes étaient morts, que leurs têtes coupées reposaient l'une sur l'autre avec leur corps dans le sang, me réveilla bien deux ou trois fois. Mon cœur se serrait. Je bénissais le ciel de savoir Chauvel en mission à l'armée, et je me rendormais à force de fatigue. Le lendemain, d'assez bonne heure, je descendis. J'aurais pu m'en aller tout de suite, ma dépense était payée, mais autant rester là, puisqu'on y mangeait à bon marché. Je m'assis donc tout seul, et je déjeunai tranquillement avec un morceau de pain, du fromage, un demi-litre de vin. Cela me coûta 2 livres, 10 sous en assignat. Il me restait 75 livres. Je voulais voir la Convention nationale avant de retourner au pays. Depuis 3 mois que nous avions couru le bocage et le marais, nous ne connaissions plus les nouvelles. Les fédérés parisiens avaient presque tous péri. Eux seuls s'inquiétaient des grandes batailles de la Convention, des Jacobins et des Cordeliers. Après eux, on n'avait plus songé qu'au service. La mort de Danton, de Camille Desmoulins et de tous ces patriotes qui, les premiers, avaient soutenu la République, me paraissait quelque chose de terrible. Il fallait donc que les royalistes eussent pris le dessus. Voilà les idées qui me passaient par la tête. Et sur les 8 heures, ayant payé ce que je devais à la vieille, je laissai chez elle mon sac, en la prévenant que je reviendrais le prendre. Tout ce que Marguerite m'avait écrit autrefois sur Paris, sur les cris des marchands, les files de malheureux à la porte des boulangeries, les disputes au marché pour s'arracher ce que les campagnards apportaient, je le vis alors. Et c'était devenu pire. On chantait de nouvelles chansons, on criait partout les journaux qui parlaient de la mort des corrompus. Je me souviens avoir traversé d'abord une grande cour plantée de vieux arbres, le palais du ci-devant duc d'Orléans, et d'avoir vu beaucoup de gens assis dehors en train de boire et de lire les gazettes. Ils riaient, ils se saluaient comme si rien ne s'était passé. Plus loin, sur l'enseigne d'une salle en plein air, qui me rappela celle que Chauvel avait établie chez nous pour la commodité des patriotes ayant lu « Cabinet de lecture », j'entrai hardiment et je m'assis parmi des quantités de citoyens qui ne tournèrent pas même la tête. Là, je lus le Moniteur tout entier et d'autres gazettes racontant le procès des Dantonites, ce qui ne me coûta que 2 sous. Le comité de salut public avait fait arrêter les Dantonistes, soi-disant pour avoir conspiré contre le peuple français en voulant rétablir la monarchie, détruire la représentation nationale et le gouvernement républicain. On les avait empêchés de parler, on avait refusé de faire venir les témoins qu'ils demandaient, et comme ils s'indignaient, comme Danton parlait au peuple et que le peuple s'indignait avec lui, Saint-Just et Billaud-Varenne, représentant le comité du salut public devant le tribunal révolutionnaire, avaient couru dire à la Convention que les accusés se révoltaient, qu'ils insultaient la justice et que si la révolte gagnait le dehors, tout était perdu. C'est malheureux. Ne parlait pas des justes réclamations de Danton, de la liste des témoins qu'il demandait et qu'il fallait entendre, selon la loi. Saint-Just dit qu'un décret seul pouvait arrêter la révolte. Et cette grande convention nationale, tremblant alors devant le comité de salut public dont Robespierre, Saint-Just et Couthon s'étaient rendus maîtres, cette convention qui tenait tête à toute l'Europe avait décrété que le président du tribunal révolutionnaire devait employer tous les moyens pour forcer les accusés de respecter la tranquillité publique, et même s'il le fallait, aller jusqu'à les mettre hors la loi. C'est tout ce que Robespierre voulait. Le lendemain, sans entendre les témoins, ni l'accusateur public, ni les défenseurs, ni le président, les jurés assassins décidèrent qu'ils en savaient assez. Ils déclarèrent Danton et ses amis coupables d'avoir voulu renverser la République, et les juges leur appliquèrent la peine de mort. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les paroles de Danton, de Camille Desmoulins et des autres dantonistes. Elles sont dans tous les livres qui parlent de la République. Danton avait dit « Mon nom est inscrit au panthéon de l'histoire ». Il avait raison, ce nom est inscrit tout en haut, et celui de ses assassins en bas. Danton les écrase. C'est le premier, le plus grand et le plus fort des hommes de la Révolution. Il avait du cœur et du bon sens. Ses ennemis n'en avaient pas. Ils ont perdu la République et lui l'avait sauvée. Tant qu'un honnête homme vivra parmi nous, Camille Desmoulins aura des amis qui plaideront son sort. Tant qu'il restera chez nous, des braves, le nom de Westermann sera respecté. Mais je dis là des choses que tout le monde sait. Il vaut mieux continuer tranquillement et ne pas s'emporter. Après avoir lu cela, les yeux troubles, je me rendis à la convention. Je n'eus qu'à demander au premier venu. Il me dit « C'est là-bas ». Autant que je me rappelle, c'était une grande bâtisse, donnant sur un jardin, l'escalier sous une voûte et la lumière venant d'en haut. Chacun pouvait y monter, mais il fallait arriver de bonne heure pour avoir de la place dans les balcons à l'intérieur, garnis de drapeaux tricolores et de couronnes en peinture. Je trouvai tout de suite une place sur le devant de ces balcons. On était assis comme aux orgues d'une église, les bras sur la balustrade. Je voyais tous les bancs en bas, en demi-cercle, les uns au-dessus des autres, jusque près du mur, la tribune en face. On montait à la tribune par des escaliers sur les côtés. Tout était en bois de chêne et bien travaillé. Les représentants arrivaient à la file se mettre dans leurs bancs, les uns à gauche, les autres à droite, en haut, en bas, dans le milieu, ce qui prit bien une heure. Nos balcons aussi se remplissaient de gens du peuple, en bonnets rouges à petites cocardes. Quelques-uns avaient des piques. On parlait, cela faisait un grand bourdonnement sous cette voûte. À mesure que les représentants arrivaient, les gens autour de moi disaient « Ça, c'est un tel. Ce gros homme, c'est le gendre. Celui-ci, que les serviteurs officieux apportent sur sa chaise, c'est Couton. Voici Billot, Robert Lindé, Grégoire Barrère, Saint-Just, ainsi de suite. » Lorsqu'on parla de Saint-Just, je me penchai pour le voir. Il était petit et blond, très beau de figure et bien habillé, mais raide et orgueilleux. En pensant à ce qu'il venait de faire, j'aurais souhaité lui parler dans un coin. On appelait ces gens les vertueux, mais nous autres, nous étions bien aussi vertueux qu'eux, je pense, dans les tranchées de Mayence, sur les redoutes et dans les bouts de la Vendée, sans pain, sans souliers, sans habits. Je trouve, moi, que le peuple est bien bête de donner d'aussi beaux noms à des orgueilleux pareils, et puis de les adorer comme des êtres extraordinaires. L'esprit de bassesse fait toute cette admiration, et d'appeler vertueux des scélérats qui se débarrassent des plus grands citoyens parce qu'ils gênent leur ambition et leur despotisme, c'est trop fort. Presque aussitôt après, Robespierre entra. De tous les côtés, dans les balcons, on disait « C'est lui, c'est le vertueux Robespierre !» L'incorruptible, etc., etc. Je regardais cet homme. Il traversait la grande salle et montait le petit escalier en face, un rouleau de papier dans la main, des lunettes vertes sur le nez. Auprès des autres représentants, presque tous en habit noir, vous auriez dit un mirliflore. Il était frisé, peigné, il avait une cravate blanche, un gilet blanc, un jabot, des manchettes. On voyait que cet homme se soignait et se regardait au miroir comme une jeune fille. J'en étais étonné, mais quand il se retourna et s'assit en déroulant ses papiers sans avoir l'air de rien entendre, et que je le vis espionner en dessous et derrière ses lunettes, ceux de la salle, de tous les côtés, alors l'idée me vint qu'il ressemblait aux renards, les plus fins et les plus propres des animaux, qui se peignent, qui se lèchent et s'arrangent jusqu'au bout des ongles. Je me dis en moi-même, « Toi, tu n'aurais jamais ma confiance, quand tu serais encore mille fois plus vertueux. » Il était à peine assis que le président thalien, un beau jeune homme, la figure ronde, cria « Citoyens représentants, la séance est ouverte !» Je me souviens maintenant que tous ces gens étaient pâles. Ils parlaient fort, ils criaient. Ils disaient de grands mots, mais aussitôt, après, leurs joues pendaient. Tout devenait triste. Chacun pensait sans doute à ce qui s'était passé la veille, et peut-être encore plus à ce qui pourrait se passer le lendemain. Une chose qui les mit tous en fureur, ce fut de voir arriver au commencement de la séance un pétitionnaire, un boucher ou peut-être un marchand de bétail, trapu, carré, que les serviteurs officieux firent avancer jusqu'auprès des bancs et qui déclara qu'il venait offrir à la nation 1500 livres pour entretenir et bien graisser la guillotine. Il voulait encore parler, mais on ne le laissa pas finir. Tous criaient « Videz la barre! Videz la barre !» et les serviteurs officieux le mirent dehors. Pendant ce spectacle, Robespierre avait l'air d'écrire et de ne rien entendre. Mais comme le pétitionnaire s'en allait, il cria de sa place. « Le comité de surveillance aura l'œil sur cet homme. Il importe d'examiner sa conduite. » C'est tout ce qu'il dit jusqu'au soir. Sa voix était claire. On l'entendait par-dessus tous les cris et les bourdonnements de la salle. Aussitôt après, plus de 20 jeunes gens, des enfants de 15 à 16 ans, arrivèrent en uniforme. C'étaient les élèves de l'école de musique. Ils s'avancèrent sans gêne, et le plus grand d'entre eux se mit à lire une pétition pour faire empoigner, juger et guillotiner leur professeur, menaçant que si la convention ne leur accordait pas la liberté de faire ce qu'ils voudraient après les classes, tous quitteraient leur école. L'indignation recommença contre ces mauvais sujets. Le président italien leur dit avec force qu'ils étaient indignes d'être les élèves de la patrie, étant beaucoup trop bornés pour comprendre les devoirs de républicains, et puis il leur ordonna de sortir. Cela causa d'abord une dispute entre deux représentants. L'un demandait de faire inscrire au bulletin les paroles insolentes de ces jeunes polissons. L'autre disait que ces jeunes citoyens étaient encore des enfants incapables d'écrire une pétition semblable et qu'il fallait seulement rechercher les auteurs du scandale. On adopta ce qu'ils demandaient. Ensuite, on lut les propositions du comité des finances et celles du comité de la guerre. La convention sur ces propositions rendit deux décrets. L'un pour fixer le prix des transports par eau sur la Saône et le Rhône en changeant le tarif des messageries de 1790, l'autre pour embrigader et compléter les bataillons de la formation d'Orléans, tirés des armées du Nord et des Ardennes, et les faire considérer comme d'anciennes formations. Toutes ces choses m'intéressaient. Je voyais la manière de voter nos lois, et je reconnaissais que cela se faisait avec ordre. On vota d'autres lois encore en ce jour, sur le remboursement des offices de la maison de Louis XVI, car avant 89, toutes les places se vendaient et s'achetaient. La République, ayant aboli ces places, voulait rendre l'argent qu'elles avaient coûté. C'était juste. Par ce même décret, elle accorda des secours et pensions à tous les anciens serviteurs à gages du ci-devant roi, qui, par vieillesse, ne pouvaient plus vivre de leur travail. Ainsi, la République s'est montrée plus juste et plus probe que les autres gouvernements. Mais ce qui me rendit bien autrement attentif, c'est quand le citoyen Couthon se mit à parler au nom du comité de salut public. Vous auriez cru, de loin, une vieille femme avec ses fanfreluches et sa perruque poudrée. Il parlait de sa place, étant cul de jatte et ne pouvant monter l'escalier de la tribune. Voici ce qu'il dit. Cela donnait à penser en ce temps de terreur horrible. Il dit qu'un décret avait été rendu la veille par la Convention pour forcer chacun de ses membres à faire connaître la profession qu'il exerçait avant la Révolution, la fortune qu'il avait et les moyens par lesquels cette fortune avait pu s'augmenter. Plus d'un, je crois, serait embarrassé de rendre un pareil compte aujourd'hui. Il dit que ce décret ayant été renvoyé pour les détails au comité de salut public, le comité s'en était occupé tout de suite, mais qu'il avait pensé que cet objet était le commencement de bien d'autres mesures générales sur l'épurement de la morale publique et que, pour cette raison, il n'avait encore rien arrêté. Que cela viendrait, que le comité ferait un rapport sur l'influence morale du gouvernement révolutionnaire, ensuite un autre rapport sur le but de la guerre aux tyrans de l'Europe. Un autre encore sur les fonctions des représentants en mission, soit aux armées, soit dans les départements, en vue de les mieux tenir sous la main du gouvernement. Enfin, un rapport ou projet de fête à l'être suprême tous les 10 ans. La salle était pleine d'enthousiasme en l'écoutant. Et de temps en temps, Robespierre, qui ne finissait pas d'écrire, baissait la tête comme pour dire « C'est ça, c'est bien ça ». Après ce discours, on lut à l'Assemblée la liste des prises faites par notre marine sur les Anglais et les Hollandais, ce qui dura jusqu'à 8 heures du soir. Le pauvre Legendre, qui seul entre tous avait osé défendre son ami Danton à la Convention, voyant que l'épuration n'était pas encore finie, vint dire d'un air de satisfaction que le Conseil général de la commune de Havre-Marat avait envoyé plusieurs adresses à la Convention pour la remercier de son énergie contre les conspirateurs, qu'on avait oublié d'en parler, mais que lui se faisait un devoir de la féliciter d'un si beau sentiment. Ils regardèrent Robespierre de côté, mais cet homme vertueux, penché sur son pupitre, n'avait pas l'air de l'entendre. Il ne baissa pas la tête une seule fois. Pauvre Legendre, il dut passer une bien mauvaise nuit. Alors la séance fut levée. Tous les gens des balcons sortirent par les escaliers, les représentants par la grande porte en bas, et moi je suivis la foule, rêvant à toutes ces choses. Ah ! Quel bonheur de retourner à la maison ! Et que j'étais lasse de ces vertus extraordinaires de gens qui veulent avoir tout sous la main, représentants, généraux, soldats, comités et clubs, qui vous arrangent tout, mettent de l'ordre en tout et font guillotiner sans pitié les hommes de cœur qui veulent un peu de miséricorde et de liberté. Je voyais bien où ces mesures devaient aboutir. Robespierre était le maître. Restait à savoir si cela durerait, car la guillotine luisait pour tout le monde.